La confession de foi de Pierre sur laquelle repose l'Église depuis que Jésus en a décidé ainsi. Le Dieu inconnu, Jésus questionne, et vraiment, qui suis-je pour les hommes? Et il y a des tas de réponses, encore que là c'est dans la culture hébraïque, donc les réponses sont en fonction de la Bible. Mais dans le monde, Dieu est le grand inconnu, il n'a toujours été. Déjà dans l'Antiquité, l'apôtre saint Paul, qui découvre Athènes, eh bien découvre une multitude de divinités, il y en a dans tous les sens, des autels qui leur sont dédiés partout, et il est très étonné parce qu'il trouve même un autel dédié au Dieu inconnu, qu'il identifie avec le Dieu véritable, le Dieu inconnu. C'est ouvrir la perspective à toutes les possibilités logiques. Les hommes sont ainsi faits. Dieu est le grand inconnu dans le monde. Pour Jésus, même les gens qui étaient ses contemporains, donc qui voyaient ces signes, et les signes sont faits pour pouvoir identifier précisément le Seigneur, mais les signes sont ambigus, volontairement ambigus, comme les paraboles avec lesquelles Jésus parle aux hommes. Et c'est valable pour nos jours. Qui est Jésus en réalité? Eh bien, les opinions différaient grandement. Bon, c'était un homme religieux, mais de là à l'identifier avec Dieu, c'était tout autre chose. Un prophète. Alors, en fonction du charisme que les gens reconnaissaient dans l'action du Christ, eh bien, ils l'identifiaient avec un prophète plus particulier, un prédicateur dans le désert, c'était Jean le Baptiste. Un faiseur de signes, un thaumaturge, c'était Élie. Un prophète qui, un peu comme Cassandre, qui prédisait un avenir sombre, c'était Jérémie. Et puis, il y avait toutes les autres possibilités, tous les autres prophètes avec leurs caractéristiques propres. Le monde moderne est pareil. Chacun se fabrique aujourd'hui son Dieu et sa religion. Tout le monde en sait quelque chose. Vous voyez que de même qu'à Athènes, il y avait ce Dieu, le Dieu véritable au milieu de tous les autres, et bien dans le monde moderne c'est pareil. Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant que confesse saint Pierre, et bien celui-là est aussi au milieu de tous ces cultes, individualistes. Les gens se fabriquent vraiment des cultes, alors de toutes sortes. Et puis, cherchons à tâtons, non pas la vérité, mais une vérité qui leur profite, une vérité qui s'adapte à eux, au genre de vie qui est la leur, à ce qu'ils sont. C'est ça l'individualisme. Ne pas être individualisme ou dépasser l'horizon du moi, c'est partir à la recherche de la vérité objective pour ce qu'elle est en elle-même. C'est une démarche individuelle aussi, mais elle n'est pas individualiste, parce qu'elle conduit à un universalisme qui est le Dieu vivant lui-même. Alors il y a l'antithèse de la recherche de la vérité, c'est la démarche idéologique. Là, on n'a aucune chance de la trouver. Mais c'est un universalisme, mais qui est vraiment d'en bas, celui-là. Le monde les aime bien, ces universalismes-là, mais ils détournent de Dieu. Le vrai Dieu, donc, il demeure toujours inconnu. Et c'est normal. Le Christ, dans la confession de foi Pierre, tu es le Christ. C'est la première affirmation. Ça veut dire loin, celui qui a reçu l'onction. Et qu'est-ce que ça veut dire que recevoir l'onction? Ça veut dire être choisi, être élu. Tu es celui qui a été élu par le Père. Et je dis bien le Père parce que juste après, Pierre confesse, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc il y a le Père qui est derrière sa pensée. Cette révélation n'est pas une déduction logique. Pierre dépasse la chair et le sang, comme dit Jésus. Il dépasse l'univers culturel dans lequel il se trouve, qui est pourtant porteur, c'est l'Ancien Testament. Mais pour conclure que tu es le Fils du Dieu vivant, eh bien, là, on s'éloigne totalement d'un principe abstrait, le Dieu vivant. Vous voyez, même les Juifs, qui, à l'époque ou encore de nos jours, qui vouaient à Dieu un culte authentique, mais achoppaient sur cette idée du Dieu vivant. Pourquoi ? Parce que Dieu est tellement transcendant qu'il se cache indéfiniment, qu'il ne se montre jamais. Vous savez, c'est cette théologie mystique du judaïsme. C'est Dieu se cache pour qu'on le cherche, mais il ne se laisse pas trouver, afin qu'on le cherche toute sa vie durant. Et pensons à des philosophes juifs, comme Simone Weil, mais qui ont été proches du christianisme, et qui voient justement dans le christianisme enfin la libération de ce cercle infernal de recherche qui n'aboutit jamais. Vraiment, Jésus est venu volontairement mettre fin à cette recherche incessante. Et c'est le don qu'il fait à l'Église, c'est le don qu'il fait à chacun d'entre nous. Les hommes qui se fabriquent leur religion en ce monde retournent, eh bien, je dirais, à la malédiction du péché qui est reporté sans être pardonné, à l'Ancien Testament donc. Et c'est dommage, parce que l'Église est déjà là, parce que l'Église est dans le monde et qu'elle brille de la lumière de la foi véritable dans le monde. La foi repose sur cette certitude énoncée par Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a tenu à créer son Église. Il enchaîne justement sur cette idée. À partir du moment où Pierre est éclairé d'en haut, il lui révèle la fondation de l'Église. Sur cette pierre, je construirai mon Église et la force de la mort n'aura pas de pouvoir sur elle. Il n'y a pas de corrosion spirituelle au niveau de l'Église dans ce qu'elle est, parce qu'elle repose sur le Christ et elle repose sur la foi véritable. Alors, évidemment, vous me direz, oh là là, mais il y a pourtant bien des problèmes. Mais tous ces problèmes dérivent du fait que le clergé, par exemple, ne partage pas toujours la foi vivante de Pierre. Il y a des tas de manières de croire en Dieu. On peut croire en Dieu comme dans l'Ancien Testament. Un Dieu inconnu, un Dieu qui ne se promène pas dans le jardin de la création, un Dieu avec lequel on ne peut pas communiquer, mais qu'on doit vénérer, qu'on doit adorer. Parce que, en revanche, il distribue ses grâces, mais aussi ses disgrâces, sans se montrer. Le christianisme, c'est enfin une libération de cette impasse. Elle était nécessaire pour préparer la venue du Christ, précisément. La fondation de l'Église, c'est une institution qui à la fois révèle et cache, il est vrai, en même temps, ce Christ qui est en son centre. Elle le cache à travers des membres qui sont des pécheurs et qui ne se convertissent pas assez rapidement. Elle le cache à travers des limitations tout simplement humaines pour formuler les vérités divines. Elle le cache dans des cœurs qui ne se donnent pas assez, qui ne sont pas assez généreux, qui n'aiment pas assez Jésus au-delà d'eux-mêmes. Voyez, la mission de l'Église, elle est énoncée ici par Jésus. C'est transmettre cette foi formulée par Pierre. Transmettre cette foi qui ne vient pas d'une connaissance de la chair ni du sang, qui ne vient pas d'une connaissance logique, qui vient d'en haut, qui est communiquée comme une certitude. Jésus est bel et bien le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas du tout un système abstrait. Et il ne s'agit pas pour l'Église, sa mission, ce n'est pas d'organiser le monde dans sa dimension morale. L'Église aime bien, le clergé, pardon, aime bien faire ça généralement au long des âges. Le clergé est souvent très moralisateur, mais il n'est pas là pour ça en tant que tel. Il est là pour faire éclater au grand jour une grande vérité inconnue et qui se cache pourtant au milieu de ce monde. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le salut dépend de cela. Alors, le pouvoir de lier ou de délier, eh bien, il est bien exprimé par le baptême. Cette capacité de discerner ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Lier à l'Église, délier, laisser partir de l'Église ceux qui ne veulent pas partager sa foi. Cette foi énoncée par Pierre, je le répète. En conclusion, je dirais que le Christ demande aux disciples à la fin, eh bien, il leur révèle, il confirme cette révélation qu'a reçue Pierre. Il confirme donc Pierre et en même temps il lui demande eh bien, de garder le secret, de ne pas le révéler. C'est vraiment très ambigu. Alors on peut dire que c'est parce qu'il n'avait pas vécu sa passion, il n'avait pas encore opéré sa résurrection d'entre les morts, il n'était pas retourné auprès du Père et n'avait pas envoyé l'Esprit Saint. Et c'est vrai. Là, pour l'instant, sa mission était encore incomplète. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que l'Église doit inviter les gens à recevoir la révélation de Pierre lui-même. Ce n'est même pas l'Église qui confère cette révélation de la foi. Ça demeure une recherche individuelle, mais elle doit être confrontée et reconnue, bénie par l'Église sous la forme de ce sacrement du baptême qui nous intègre à l'Église, mais qui est le corps du Christ, qui n'est pas une institution indépendante de lui. C'est pourquoi on parle d'image de Dieu, c'est-à-dire de filiation. Par le Christ, eh bien, nous devenons nous-mêmes des fils de Dieu, alors que le péché originel nous avait écartés de la famille céleste. Une belle confession de foi, mais qui n'est pas théorique. Je dirais, pour achever, eh bien que la nouvelle alliance, ce n'est pas un système théologique, ça comporte cette dimension. Mais ce n'est pas cela son secret. Son secret, c'est aimer Jésus, comme Pierre aimait le Seigneur. Et c'est parce qu'on aime le Seigneur eh bien que la révélation nous est faite de son identité véritable. Parce que nous regardons à ce moment-là, de l'intérieur, le cœur de Jésus. Nous ne sommes plus à l'extérieur pour juger qui il est. De l'extérieur, même d'un point de vue religieux, il reste un homme de Dieu, mais difficilement identifiable au Dieu éternel. Alors au cours de cette Eucharistie, identifions-nous à Jésus, aimons Jésus et laissons notre cœur confesser sa foi.